Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille 106,6 FM et sur www.campuslille.com. لاتسميو هيلو مطاف كومبوس راه في المواجن 136 على كوتي وريق سن www.campusliel.com. Un foutu mélange sur les ondes de Radio Campus Lille. La vôme chlou draf ou mataf kompus 136.
Germain Hirzel, bonjour, bienvenue bonjour. Sur Radio Campus Lille. Voilà, on a toujours le plaisir de vous recevoir. Vous êtes vous êtes historien de l'art, passionné par l'aventure du groupe de Roubaix depuis 2005, tout en sachant que ce groupe de Roubaix, groupe d'artistes, a vu le jour dès 1946.
C'est ça.
Et là, on assiste à un nouvel accrochage à la piscine de Roubaix. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, donc qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouvel accrochage?
Alors, l'équipe de la conservation de la piscine a fait le choix de renouveler entièrement l'accrochage des salles du groupe de Roubaix. Ce sont des salles qui avaient été agrandies à l'occasion de justement de l'agrandissement du musée en 2018. Ce sont des salles qui avaient assez peu évolué depuis. Et là, encore une fois, les conservatrices, sous la houlette d'Adèle Taïfé, ont fait le choix d'entièrement revoir cet accrochage et de renouveler entièrement les œuvres qui sont proposées au public.
Alors, on reviendra un peu sur des artistes, d'ailleurs, qui ont été mis à l'honneur lors d'expositions à la piscine de Roubaix assez conséquentes. On peut déjà citer des noms tels que Eugène Dodaigne, Paul Emery, je vais en oublier. Alors, je compte sur vous pour rétablir.
Oui, bien sûr, on peut citer Arthur Vanek, Karen Bell, Eugène Leroy, Jean Roulant. Marc René, Robert
oui. Germaine Richier n'a jamais été exposée en particulier.
Alors, Germaine Richier n'a jamais fait l'objet d'un accrochage à la piscine, ni d'une exposition, mais ça fait partie de ces figures tutélaires qui ont été vraiment des sources d'inspiration fortes pour les artistes du groupe.
On peut dire aussi que dans le cadre de Fiesta 3000, le LAM, donc, qui est en rénovation, a fait en sorte que on a pu accueillir à la piscine de Roubaix trois œuvres du LAM.
Oui, c'est ça précisément. Pendant les travaux, le LAM a fait l'amitié au musée de Roubaix de mettre en dépôt trois œuvres importantes, deux œuvres de Nicolas de Staël. Nicolas de Staël, qui est lui aussi, comme Germaine Richier, l'une des sources d'inspiration pour les artistes du groupe de Roubaix. Et une sculpture d'Eugène Dodaigne, qui en fait n'a pas quitté le musée depuis la grande rétrospective. Donc c'est une œuvre en bois de la fin des années 40. Donc toutes ces trois œuvres...
Invocation de Dodaigne.
Trois œuvres qui ont appartenu au collectionneur Jean Mazurel et donc qui sont aujourd'hui dans les collections du LAM et donc mises en dépôt le temps des travaux du LAM à la piscine de Roubaix.
Alors justement, on va revenir un petit peu sur ce groupe de Roubaix. Il faut savoir que quand je dis passionné par l'aventure du groupe de Roubaix, mais aussi... très intéressé par comment ce groupe a pu justement sortir de l'ombre et donc tous ces mécènes, tous ces collectionneurs qui ont contribué, je dirais, un petit peu à les mettre en avant.
Oui, Alors effectivement, le groupe de Roubaix, ce sont des artistes, hein, évidemment, une grosse dizaine d'artistes pour les principaux, mais cette notion de groupe de Roubaix est surtout issue d'un contexte. Ce contexte, ben, c'est celui de l'après-guerre, hein, et des Trente Glorieuses. C'est dans ce contexte assez particulier que ces artistes ont évolué. Alors on parle de groupe de Roubaix plutôt que d'école de Roubaix, parce qu'en fait, ils n'ont jamais formé une école. Ils ne sont d'ailleurs pas tous passés par les écoles des Beaux-Arts. Hein. Donc avant tout, plutôt un groupe d'amis, hein, un groupe d'amis artistes, hein, qu'ils soient peintres ou sculpteurs, passionnés par leur art, qui ont été amenés en fait à se côtoyer donc dans ce contexte très particulier de Roubaix et de la métropole lilloise au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et donc dans ce contexte des Trente Glorieuses.
J'ai eu l'occasion, moi, de rencontrer en particulier Marc René, où justement on sent là vraiment une détermination. Enfin, c'est leur personnalité qui l'emporte. Hein. Il n'y a pas d'école, c'est comme vous dites, un mouvement, un regroupement d'amis, mais ils ont chacun véritablement quand même... en plus de leurs pattes, bien évidemment, mais ils ont aussi leur personnalité qui les démarque.
C'est un groupe assez informel, ce qui peut déconcerter aussi, parce qu'on est face à des personnalités artistiques qui sont parfois très différentes, et avec des œuvres qui sont parfois, elles aussi, très différentes, en fonction de la sensibilité de chacun des artistes influences qu'ils ont pu subir.
Eugène Leroy et Alfred Manessier, bon, bah, c'est pas tout à fait dans la même.
Alors Alfred Manessier, c'est comme Germaine Richier et Nicolas de Staël, ça fait vraiment partie des personnalités satellites qui ont été des compagnons et des modèles pour ces artistes du groupe de Roubaix.
Je propose une petite plage musicale et puis on reprendra un peu, j'irai, l'apport de tous ces mécènes, hein, qui ont permis justement au groupe de Roubaix, ben, d'être aujourd'hui là dans les beaux lieux de la piscine. Bien, nous sommes toujours en compagnie de Germain Hirzel, historien de l'art et, comme je le disais, passionné par l'aventure du groupe de Roubaix. Alors, ce groupe de Roubaix a vu le jour en 1946. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment c'est arrivé ?
Alors, en fait, on est face à des artistes qui sont de la génération des années 20, donc qui ont plus ou moins une vingtaine d'années au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont déjà un vrai tempérament d'artiste, hein, chacun de leur côté. Et en fait, à l'époque, le passage obligé pour les artistes roubaisiens et au-delà, c'est le Salon des artistes roubaisiens. C'est un salon qui accueille les jeunes artistes comme les plus anciens, mais qui, en l'occurrence, va vraiment accueillir et mettre en valeur cette jeune génération d'artistes. Donc, ils vont se rencontrer à cette occasion, avoir des échanges artistiques, nouer des contacts, commencer à peindre ensemble, à fréquenter les ateliers les uns des autres. Donc, vraiment, le Salon des artistes roubaisiens a été le déclencheur de toute cette aventure. À la suite, un certain nombre de galeries vont piocher dans ce salon des artistes roubaisiens les artistes les plus prometteurs pour les mettre en valeur dans leur galerie, les mettre en valeur à travers des expositions personnelles.
Les galeries du Jardin, Parentou et Renard en particulier.
Exactement, ce sont vraiment les trois galeries roubaisiennes qui vont vraiment propulser cette jeune génération d'artistes. D'artistes modernistes, encore une fois, on est dans le contexte de l'après-guerre et la modernité en peinture éclate, explose à travers cette jeune génération de peintres et de sculpteurs.
Parce que j'ai lu le groupe de Roubaix, une aventure moderne, vous venez de le dire, septentrionale. Le septentrional, pourquoi ?
Ben oui, effectivement, en fait, ce sont des artistes qui sont tous de la région. Ils sont de Roubaix principalement, mais aussi de Tourcoing, de Marcq-en-Barœul, de Lille.
Et ils voyagent peu. C'est vrai.
Disons qu'ils sont vraiment ancrés dans leur région. Alors, ils voyagent, ils vont voir les expositions à Paris, en Belgique, en Hollande, les musées, etc. Mais ils sont très imprégnés de leur région dans laquelle ils sont installés et là où ils vont vivre pour la plupart toute leur vie. Ils y resteront pour la plupart très, très, très attachés. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont en commun. Ce sont des tempéraments septentrionaux.
D'accord. Alors, bon, justement, on parlait donc des galeries qui les ont accueillis, qui les ont mis en avant. Et puis aussi, ils ont bénéficié aussi de cette richesse industrielle de Roubaix à l'époque, qui a permis justement à des grands patrons d'entreprise de pouvoir acheter leurs œuvres.
Oui, c'est en ça que cette aventure artistique est assez singulière. Puisque passé par le salon des artistes roubaisiens puis dans les galeries roubaisiennes, les œuvres de chacun des artistes vont être vues par un certain nombre de collectionneurs, de collectionneurs passionnés, à commencer par les industriels du textile, qui, la plupart, à leur mesure, ont été des soutiens assez fondamentaux pour ces artistes et des clients de ces galeries. Donc c'est vraiment grâce au soutien des galeries et des collectionneurs, et très notoirement les industriels du textile, que cette génération d'artistes va pouvoir vivre de son art.
Sans vouloir tous les citer, on peut citer effectivement Mazurel, Leclerc, Letienne et Prouvot.
Jean Mazurel a été sans doute le premier à s'intéresser à cette jeune génération d'artistes. Et à la suite de Jean Mazurel, d'autres collectionneurs se sont intéressés à eux. Donc vous les avez cités, Philippe Leclerc, Anne et Albert Prouvot. Effectivement, ça a été extrêmement important pour eux.
Alors il y a aussi en 1997, une collection d'entreprises du Peignage Amédée qui a donc été vendue aux enchères. Et donc, la ville de Roubaix a fait pas mal d'acquisitions qu'on va retrouver justement dans ce fameux musée de la piscine.
Oui, alors ça a été aussi assez fondamental dans la reconnaissance de ce groupe de Roubaix. L'aventure artistique dans les années 50-60 a été assez informelle et il a fallu attendre un peu de temps avant qu'on comprenne qu'il s'était vraiment passé quelque chose d'assez particulier à cette époque. Et c'est vrai qu'en 1997, quand les collections du Peignage Amédée Prouvot à Roubaix sont vendues aux enchères, les municipalités vont se mobiliser et notamment la ville de Roubaix se mobilise pour tenter d'acquérir ces œuvres importantes des artistes du groupe, d'autant plus qu'à l'époque, la piscine n'existait pas encore, hein, on travaillait encore sur le projet, mais la piscine n'existait pas encore, et surtout aussi, le musée de Roubaix, pendant les années pendant lesquelles ces artistes ont travaillé et ont exposé à Roubaix, le musée était fermé. Donc en fait, le musée est passé un peu à côté de cette aventure artistique et la redécouvre, on va dire, en 1997 à travers cette vente aux enchères, donc lors de laquelle la ville de Roubaix va faire des acquisitions importantes.
Alors, Monsieur Herzl, c'est peut-être un peu difficile de donner un peu l'image de la scénographie qui fait l'objet de ce nouvel accrochage. Mais vous pourriez peut-être un peu nous dire le pourquoi on retrouve peut-être des artistes dans un même environnement où, là aussi, on ne pourra pas tous les citer, quoi, mais nous donner un petit peu l'envie peut-être d'aller voir ce groupe de Roubaix à la piscine de Roubaix.
Ben, l'idée de cet accrochage a été justement de raconter cette aventure artistique, pas seulement d'accrocher des œuvres, mais de raconter les liens qui ont pu exister entre les artistes. Et ces liens sont particulièrement notables à travers la confrontation de leurs œuvres, qu'il s'agisse de portraits, qu'il s'agisse de paysages, qu'il s'agisse d'œuvres abstraites. On lit très bien les rapports qui ont pu exister entre eux. Alors, les rapports qui sont, encore une fois, pas des liens d'école, hein, mais plutôt des liens d'amitié et des liens entre des artistes qui se sont beaucoup côtoyés, beaucoup regardés et qui ont évolué ensemble. Donc, c'est vrai que cet accrochage, à la différence des précédents accrochages, est peut-être plus didactique pour le public et permet d'entrer aussi dans une espèce d'intimité avec les artistes grâce à la présentation d'œuvres, évidemment, mais aussi de documents, de portraits des artistes, hein, de portraits photographiques et qui nous donnent l'image de ces artistes. Je pense que cet accrochage raconte mieux cette histoire.
Eh bien, Monsieur Herzl, merci encore d'avoir pris l'antenne de Radio Campus pour nous parler de ce groupe de Roubaix, une aventure artistique 1946-1975. Ça, c'est un ouvrage que j'ai devant les yeux et que j'invite les auditeurs auditrices de Radio Campus à découvrir, entre autres, dans la boutique du musée. Un ouvrage, vous en êtes l'auteur.
Exactement.
Il y en a encore quelques exemplaires, je pense.
Je pense qu'il en reste quelques-uns à la piscine.
Oui, on doit peut-être pouvoir aussi le trouver peut-être au Furet du Nord ou dans d'autres librairies.
C'est possible aussi.
Voilà. Eh bien, écoutez, encore un grand merci. Aussi,
je vous en prie.
Et puis, à la prochaine fois. Merci Nadia pour la partie technique. Hélène Duré, bonjour. Vous êtes
bonjour.
À nouveau sur les ondes de Radio Campus. C'est toujours pour nous un grand plaisir.
Plaisir partagé. Merci pour l'invitation.
Eh bien, voilà. Alors, il se passe, bien sûr, toujours quelque chose à la piscine de Roubaix. Et quelque chose d'un peu, je dirais, particulier. Une exposition sur Agnès B. On aime le graphe. Une exposition qui durera jusque janvier 2026. Elle est organisée dans le cadre de Fiesta 3000. Vous pouvez nous en dire quelques mots de cette exposition et le pourquoi peut-être de cette exposition ?
Oui, bien volontiers. Alors effectivement, l'exposition Agnès B, on aime le graphe, elle s'invite dans une saison estivale qui regarde vraiment le lien entre vêtements et arts urbains. Et Agnès B, on est en plein dedans, puisqu'Agnès B, évidemment, est une grande styliste dont la marque fête ses 50 ans cette année. Mais elle a aussi été vraiment une des premières à défendre le street art, à défendre ses artistes, à les exposer aussi, puisqu'elle a ouvert une galerie, la Galerie du Jour, en 1984, en parallèle de son activité de styliste. Et donc, elle a vraiment eu ces deux casquettes-là, sa passion pour le graphe et sa passion pour la mode. Et évidemment, il y a des circulations entre les deux. C'est vraiment ce qu'on voit dans l'exposition, c'est-à-dire un aller-retour entre des œuvres d'artistes qui font partie de sa collection et des collaborations qu'elle a créées dans le domaine du vêtement avec sa marque.
Agnès B, c'est quand même une grande créatrice. Alors, je ne peux pas dire qu'elle vient d'un milieu peut-être pas très favorable à ça, parce qu'elle vient d'un milieu de généraux, de juristes, et là, vraiment, elle a touché tout à fait un autre monde, avec les graffeurs, avec les...
oui, c'est certain. Alors, c'est quelqu'un qui a un vrai regard sur l'art, alors qu'elle a grandi à Versailles. Et je pense que le château de Versailles est une référence qu'elle cite aussi en permanence, même si on est assez éloigné du domaine des arts urbains. Mais voilà, elle a vraiment eu ce regard sur l'art depuis toujours. Et ensuite, effectivement, c'est cette période si particulière, si favorable des années 80. Le contexte aussi très... très vivant, très révolutionnaire de New York à cette époque, qui lui a permis de se plonger là-dedans. Et puis, elle a vraiment porté ce discours très tôt, hein. Elle était vraiment précurseur de dire que le graffiti qu'on voyait dans la rue n'était pas une pollution, mais était bien de l'art. Et là, elle s'inscrit vraiment dans un héritage de mai 68, finalement, puisque mai 68, c'est vraiment un moment où on a vu fleurir beaucoup plus encore l'appropriation des murs par les artistes sous la forme du graphe, mais aussi sous la forme de l'affiche, etc. Et voilà, je pense que c'est vraiment ce contexte aussi qui lui a permis de donner une voix aux murs.
Voilà, et donc là, dans la salle d'exposition, il y a sur un grand mur, je dirais, un grand nombre de t-shirts, qui a donc fait l'objet effectivement de création. Je crois qu'elle avait fait appel à une vingtaine d'artistes, je crois, pour faire ces t-shirts qui sont exposés.
Oh, même plus que ça, puisque au total, dans l'exposition, on présente une trentaine d'artistes. Et effectivement, des collaborations avec des artistes, que ce soit pour des t-shirts ou des tenues complètes, c'est quelque chose qu'elle a pratiqué souvent. Et ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est de voir aussi la logique dans laquelle elle a fait ses collaborations. C'est-à-dire que pour elle, ce n'est pas que des objets de mode, mais elle voit vraiment aussi le t-shirt comme un moyen d'exposer l'art, de diffuser l'art pour que chacun, chacune puisse, dans son vêtement, emporter l'art avec soi, dans son quotidien, dans sa vie. Voilà, que vraiment les œuvres vivent à nos côtés tous les jours. Et c'est dans cet esprit-là qu'elle a créé ses vêtements et ses t-shirts en particulier.
Parce que tous les vêtements qui sont exposés, en fin de compte, ça démarre par des vêtements d'utilisation presque journalière. Je crois que
oui.
C'est important pour elle. C'est quelque chose aussi qu'on doit donc porter longuement, comme vous venez de le dire.
C'est pas... Oui. Oui, pour les t-shirts, c'est vraiment ça. On est vraiment sur une utilisation quotidienne, hein. On n'est pas sur des vêtements d'exception. L'objectif, c'est vraiment d'avoir ça avec soi au jour le jour et puis aussi de le faire circuler, c'est-à-dire de le prêter à des copains, de l'oublier quelque part, de le retrouver, etc. Elle porte très fort ce rapport affectif au t-shirt. Elle le défend vraiment.
Et donc, tous ces vêtements-là, qui sont en plus des t-shirts exposés là sur les socles, vous pourriez nous en dire quelques mots, parce que c'est pas facile, effectivement, à la radio, d'avoir une envie d'aller à cette exposition, mais est-ce que vous pourriez nous donner quelques particularités, peut-être?
Oui, alors en fait, donc c'est une exposition qu'on présente vraiment comme un white cube, donc un grand espace avec très ouvert pour vraiment mettre en valeur les œuvres, et au centre un très grand podium dans un esprit mode, hein. Clairement, c'est une citation des podiums de défilés, dont il y a d'ailleurs aussi une vidéo. Et donc sur ce podium se trouvent toutes les tenues de collaboration entre Agnès B et des street artistes, et au mur tout autour se trouvent les œuvres, ce qui fait que vraiment les visiteurs circulent, le regard circule des murs vers le podium, du podium vers les murs, pour comprendre la façon dont à chaque fois Agnès B a réinterprété les œuvres des artistes pour en faire des vêtements. Et c'est ce jeu de circulation-là, je pense, qui est vraiment le point fort de l'exposition. Et effectivement, au fond, il y a aussi ce grand mur de t-shirt que vous citiez juste avant.
On est un peu dans effectivement, pas un tourbillon, c'est peut-être pas le bon terme, mais on est toujours un petit peu attiré, on circule, quoi. On n'est pas comme dans une exposition peut-être plus traditionnelle, je sais pas comment l'exprimer, mais il se passe quelque chose, quoi, là. On voit l'exposition différemment.
Oui, ben, je pense que la grande différence, c'est qu'on est peut-être moins dans un parcours qui raconte une histoire que vraiment dans un espace ouvert où on peut picorer presque librement et puis s'amuser à retrouver des détails d'une pièce à l'autre. Il y a quelque chose de plus ouvert, effectivement, que ce qu'on fait d'habitude.
Alors, je ne peux pas tous les citer parce qu'il y en a un grand nombre, mais il y a des noms de gens qui ont exposé, soit à Lille, soit même à la piscine, parce que John Wan a eu une exposition à un moment donné, donc dans les murs de la piscine. Il y a aussi Jeff
Oui.
Aérosol qui a joué un rôle important pour Agnès B.
Oui.
Mais enfin,
Oui.
si on commence à les citer, on s'arrête plus là.
C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont importants à la fois pour le musée et pour la ville de Roubaix, aussi parce que Roubaix est vraiment un terrain de jeu de prédilection pour les graffeurs. Quand on se promène alors autour de la piscine avant de rentrer dans le musée, on voit énormément de signatures sur les murs autour. Donc vous citiez Jeff Aérosol, effectivement, qui a deux très belles pièces sur un mur latéral de la piscine. Mystique aussi, Monsieur Voul, bien d'autres, voilà, qui sont présents. Et puis dans la piscine, effectivement, on a voilà désormais plusieurs pièces de street art, et en particulier de John Wan, avec qui on a une relation particulière aussi, évidemment, parce qu'il a lui-même une relation très forte avec Roubaix. Son atelier est situé tout proche du musée. Et effectivement, l'exposition est née de cette relation particulière avec John Wan, puisqu'il avait offert à la piscine, donc c'est une pièce qui est dans nos collections et qui est aussi présentée dans l'expo, un ensemble créé avec Agnès B, une tenue très colorée, voilà, qui est vraiment au cœur de l'expo. Et pour cette exposition aussi, la relation entre Agnès B et John Wan est très présente. D'abord parce qu'à l'entrée de l'exposition, la première chose que vous voyez en arrivant au musée, c'est une Smart, une voiture, c'est la Smart d'Agnès B avec laquelle elle a roulé pendant des années, et qui a été entièrement peinte par John Wan. Donc ça, elle est dans le jardin, en extérieur, c'est la première chose qu'on voit. Et par ailleurs, Agnès B a souhaité donner une carte blanche à deux artistes, aussi dans un esprit voilà, vraiment de création pour l'expo, et puis aussi de création éphémère, hein, puisque c'est quand même le cœur du street art. Et donc, dans les cabines du premier étage, il y a deux cartes blanches. L'une à John Wan, qui a fait une création directement sur les murs du musée pour l'exposition. Et honnêtement, c'est vraiment très, très beau. Et l'autre cabine, qui est une carte blanche à Espac, donc un autre artiste de la métropole, avec là aussi une pratique assez différente. Pour le coup, on est plutôt sur des pratiques de collage, voilà, mais qui est là aussi une création pour l'expo.
Alors allons tous à la piscine de Roubaix pour l'exposition Agnès B. On aime le graphe, exposition qui va durer donc jusqu'au 11 janvier 2026. Agnès B. Point. Alors le pourquoi, je crois que c'est... Elle s'est mariée très jeune en définitive et elle a dû garder son nom.
Oui, elle a souhaité garder ce nom-là qui était aussi le nom de sa marque. Hein, et puis évidemment, un nom de marque n'est pas aussi facile à changer qu'autre chose. Donc effectivement, Agnès B, tout écrit en minuscules, c'est sa signature qui est aussi le logo de la marque avec cette typographie si particulière qui participe aussi vraiment de l'identité de la marque. Et effectivement, ça permet aussi, enfin cette exposition est une célébration des 50 ans d'Agnès B. De la marque.
Alors, on peut dire que Agnès B, bien sûr, a aussi aidé beaucoup, a propulsé beaucoup de monde, hein, et des scientifiques, entre autres. Et elle a aussi participé à la restauration du film de Jacques Tati, Playtime. Hélène, je vous propose une petite plage musicale et on reprendra tout ce qui se passe à la piscine de Roubaix en ce moment. Eh bien, nous reprenons le cours de l'interview avec Hélène Duray. Et là, Hélène, il se passe aussi d'autres choses, des expositions qui vont avoir lieu, celle-là jusqu'au 28 septembre 2025, à la fois une exposition sur Ben Bella, céramiste, et une exposition sur de nouveaux espaces qui seront permanents et que la piscine doit inaugurer, les baigneurs de la piscine. Ce sont des cabines du rez-de-chaussée du bassin. On va les retrouver là, au pied du bassin.
C'est bien ça.
Alors, Ben Bella, bon, il est bien connu. Moi, j'ai toujours ce souvenir des pavés du Nord et de la course de Paris-Roubaix. Bon, il n'a pas fait que ça.
Et oui.
Mais c'est quand même un moment fort. Ouais. Les 12 kilomètres qu'il a égayés de ces carreaux-là, sur ces fameux pavé. Et puis aussi, il a fait une station de métro à Tourcoing, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Ouais, donc personnage quand même du Nord aussi, on peut le dire.
Bah oui, bien sûr, je pense que c'est un des grands artistes contemporains du Nord qui a vraiment pris sa place. Et effectivement, pour nous, le clin d'œil dans cette saison mode et arts urbains, il est double. Il est bien sûr, vous l'avez dit, dans sa participation au Paris-Roubaix de 1986, où il peignait les pavés et qui peut être vécu comme une des interventions précurseurs dans l'espace public, voilà, presque de l'ordre du street art. Et puis aussi, ses liens avec la mode, puisque dans l'accrochage que nous avons au premier étage, notre accrochage mode, vêtements bavards, on peut voir aussi les tenues qui ont été réalisées en lien avec Majoub Ben Bella, et on retrouve ces motifs calligraphiés qui sont par ailleurs aussi sur les céramiques.
On peut dire que cette exposition est en résonance avec l'exposition d'Agnès B.
Oui, bah oui, bien sûr. C'est l'esprit d'avoir toujours un fil directeur à la piscine.
ça perdure. Alors, on peut quand même aussi le dire que cette exposition est due un peu au soutien des amis du musée et au don de son épouse, Brigitte Ben Bella, et de ses enfants, qui ont permis de pouvoir exposer ces céramiques.
Oui, bien sûr, effectivement, l'ensemble de céramique qui est présenté, on a eu la chance de l'acquérir en plusieurs fois, mais vraiment grâce à la générosité des personnes qui nous accompagnent, et la famille de Ben Bella, effectivement, notamment son épouse Brigitte, a été présente de longue date aux côtés de la piscine, et puis bien sûr les amis du musée voilà, que je vous invite à rejoindre et qui sont toujours très présents à nos côtés pour des acquisitions, et donc notamment pour ces céramiques.
Alors, les vêtements bavards, est-ce que vous pourriez aussi là, nous en dire un peu plus ?
Alors, Vêtements bavards, c'est donc un accrochage de notre collection mode qui explore la question du message dans le vêtement, puisque pendant longtemps, les vêtements ont été muets, si j'ose dire, c'est-à-dire calligraphie et vêtements étaient deux modes bien, bien distincts. Et puis, de plus en plus, depuis le XXe siècle, on a vu les mots envahir le vêtement, des petits messages divers et variés, parfois revendicatifs, parfois personnels, parfois publicitaires. Vous trouverez un petit peu de tout dans l'exposition. Et on retrouve, toujours des créateurs anonymes, puisque le vêtement n'est pas toujours signé, mais aussi des grands noms qui sont importants dans nos collections, et en particulier Elisabeth de Senneville et Jean-Charles de Castelbajac, dont on a la chance de conserver des fonds importants pour les deux, et qui ont tous les deux... dans leurs innovations formelles, dans leurs innovations techniques aussi, explorer beaucoup cette question du mot dans le vêtement. Et donc, on a d'importants ensembles de ces deux créateurs. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que nous aurons la chance d'accueillir Elisabeth de Senneville en septembre, le 26 septembre, pour une rencontre dédicace autour de son catalogue raisonné qui vient de paraître. Donc voilà, une date à ne pas rater.
Eh bien, et surtout aussi, donc, ces deux expositions qui qui dure donc jusqu'au 28 septembre, à la fois Ben Bella céramiste et vêtements bavards. Alors, on a aussi donc maintenant disons ces nouveaux espaces permanents qui regroupent l'exposition Les baigneurs de la piscine. Alors,
oui.
Ça c'est pourquoi?
C'est venu par l'envie de prolonger cet émerveillement qu'on a quand on pénètre dans le bassin, de prolonger par les œuvres, puisque depuis voilà le presque quart de siècle que le musée est dans la piscine et donc a pris le nom aussi de la piscine. Évidemment, les collections se sont considérablement enrichies par ce lien, à la fois par des objets qui proviennent de la piscine historique de la rue des Champs, mais aussi par beaucoup d'artistes qui s'en sont inspirés et donc l'envie c'était de donner voilà de créer du lien et puis de prolonger cet émerveillement que ce qu'on soit un nouvel arrivant ou alors qu'on ait appris à nager ici par les œuvres. Et donc effectivement c'est des œuvres d'une grande diversité, il y a des objets historiques, il y a des œuvres récentes, il y a un petit peu de tout qui ont pour seul point commun de se rapporter à la question du bain.
Oui, alors on peut dire aussi une chose, hein, au départ quand même, la piscine, ça avait été créé en fin de compte aussi pour développer l'hygiène, pour donc soigner, et puis après ça a pris aussi une autre dimension avec peut-être la notion du sport et du loisir. Et ça peut être retracé aussi dans cette exposition.
Oui, dès le début, il y avait vraiment les deux, effectivement, dans cette espèce d'utopie sociale qui était la création de la piscine dans les années 30. Il y avait à la fois le souhait fort d'apporter de l'hygiène aux habitants de Roubaix qui, pour beaucoup d'entre eux, n'avaient pas l'eau courante ou en tout cas pas de salle de bain, notamment dans toutes les courées. Mais d'emblée, il y a aussi une dimension de loisirs, de sport, l'apprentissage de la natation qui a été obligatoire pour les scolaires et gratuit dès le début. Et puis aussi la pratique sportive avec le swimming club de Roubaix qui avait des créneaux réservés et qui a beaucoup pratiqué ici. Et donc effectivement, on est dans un lieu qui est vraiment au cœur de l'histoire de l'hygiénisme et aussi de l'histoire des loisirs. Et c'est ces deux liens-là qu'on explore aussi à travers les œuvres.
Hélène, on ne peut pas ne pas citer quand même aussi ce nouvel accrochage du groupe de Roubaix.
Ah oui,
hein? Alors, on a eu effectivement, il y a eu une interview sur Radio Campus par notre fidèle historien de l'art et passionné de ce groupe de Roubaix, mais vous pourriez peut-être nous en dire aussi, vous, quelques mots.
Oui, alors je vais laisser la rigueur scientifique à notre ami Germain Hirsel, mais pour vous dire quelques mots peut-être de l'intention de cet accrochage. Donc effectivement, voilà, on a la chance à la piscine d'être un lieu de référence pour ce groupe, puisque aujourd'hui il y a un très très gros fonds d'œuvres, plusieurs centaines d'œuvres, alors que pourtant, si j'ose dire, la piscine est rentrée tardivement dans cette histoire, puisque le groupe de Roubaix, ce sont donc des artistes de l'après-guerre. Et pourtant, dans les années 90, la piscine, qui n'était pas encore la piscine d'ailleurs, ne conservait qu'une seule œuvre du groupe de Roubaix. Donc, c'est vous dire si on partait de loin. Et puis, il y a eu cette grande vente des œuvres du peignage Amédée, donc la collection Prouveau en 1997. Et là, c'est vraiment là que s'est constitué le noyau dur de cette collection.
Tout le fond.
Et donc, aujourd'hui, on a beaucoup d'œuvres aussi qui n'ont pas toujours été beaucoup montré. Donc, même si vous êtes familier de la piscine, normalement, vous aurez des vraies découvertes sorties de réserve en allant voir cet accrochage. Et puis, on avait dans l'équipe l'envie de faire une introduction très pédagogique aussi pour nos visiteurs qui ne sont pas toujours de la région et qui donc ne connaissent pas toujours le groupe de Roubaix. Donc, expliquer qui étaient ces artistes et puis qui était aussi tout l'écosystème autour d'eux, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que les artistes, mais il y avait aussi les collectionneurs, les galeristes, tous ceux qui leur ont permis de vivre de leur art. Et donc, c'est à toutes ces personnes-là qu'on rend hommage. dommages dans l'accrochage.
Eh bien, Hélène Duré, merci encore. N'oublions pas cette exposition Agnès B, on aime le graphe, qui aura lieu à la piscine de Roubaix jusqu'au 11 janvier 2026. Et alors,
merci beaucoup.
Dans l'intimité comme ça, qu'est-ce que vous avez dans vos cartons? Il y a...
Ah, on a des très beaux projets.
Il y a de l'art, il y a de l'art déco, on peut déjà le dire.
Alors, il y a de l'art déco, mais il y a de l'art déco pas forcément comme vous l'attendez. Effectivement, on va fêter le centenaire de l'art déco cet automne, donc 1925-2025, ça fait 100 ans. Mais on va le fêter avec de la peinture et avec notamment la mise en valeur de la figure d'Odette Pauvert, qui est la première femme à avoir obtenu le prix de Rome en peinture en 1925, donc une personnalité vraiment importante, mais qui a été un petit peu injustement oubliée. Une personnalité remarquable qui a donc pratiqué à la Villa Médicis grâce au prix de Rome, et puis qui a un vrai héritage aussi des grands maîtres italiens du Quattrocento, avec un goût pour la fresque, un goût pour le portrait. Ce sont des très belles œuvres, très fortes, donc à découvrir à partir du mois d'octobre.
Eh bien, avec grand plaisir. On aura l'occasion de se rencontrer à nouveau pour justement en parler. Eh bien, Hélène, plaisir. Merci beaucoup.
Merci à vous, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
L'autre jour à Tokyo, il a fait plus beau qu'en moyenne partout ailleurs. J'ai enlevé mon manteau, il faisait moins chaud en dehors qu'à l'intérieur. Montaient les fenêtres et le thermomètre, ça me donnait des chaleurs.
de toutes les couleurs du vert, si tu préfères, pour aller dans ta vie quand ta vie désespère, pour t'enfuir loin du bruit quand le bruit exagère et qu'il met un champ d'ombre au bout de ton soleil, quand les parfums jaloux de ton odeur profonde s'arrangent pour lancer leurs signaux à la ronde et dire que les bois vertueux de l'automne sont priés de descendre et de faire l'aumône de leur chagrin mis en pilule et en sommeil. De toutes les couleurs du bleu dans les discours et dans les superciels qu'on voit du fond des cours avec des yeux super, et quand on voit l'amour lisser ses ailes d'ange et pliant sous l'orage, quand les gens dérangés par la moisson du rêve s'inquiètent de savoir comment les idées lèvent et comment l'on pourrait peut-être leur couper les ailes. Et la vertu dans le bleu de l'été, quand naissent les idées avec la fleur de l'âge. De toutes les couleurs, du jaune à l'étalage, et dans la déraison, quand Vincent la partage, quand la vitrine du malheur tourne la page, comme tournent les sols devant la vérité. Du jaune dans le vent, quand le pollen peluche à l'heure exacte et fait danser le roc aux ruches, quand une abeille a mis son quartz à leur miel, quand le festin malin semble venir du ciel pour rire jaune enfin dans le supermarché. De toutes les couleurs du rouge où que tu ailles, le rouge de l'amour quand l'amour s'encanaille, au bord de la folie, dans la soie ou la paille, quand il ne reste d'un instant que l'éternel, quand grimpe dans ton ventre une bête superbe, la bave aux dents et le reste comme une gerbe, et qui s'épanouit comme de l'autre monde, à raconter plus tard l'éternelle seconde qui n'en finit jamais de couler dans le ciel. De toutes les couleurs, du noir comme un habit, du noir pour ton amour, du noir pour tes amis, avec un peu de rêve au bout, en noir aussi, et puis teindre du rouge noir les thermidors, quand Dieu boira le coup avec tous tes copains, quand les maîtres n'auront plus qu'un bout de sapin, quand ils auront appris à se tenir debout avant de se coucher pour tirer quelques coups et sans doute les 400 coups avec la mort.
Mm-hmm. Boum, padoum, boudoum, boum, padoum, boudoum, 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 boudoum. Radio Campus, une radio libre et associative depuis 1969. Radio Campus, c'est 106.6 et www.campuslille.com. Achi, 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 achi.
Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 14h.